Catulmandès, Blanche de Caldelys. C'est à elle que Madame de Soïnoff, un soir de thé intime, 50 personnes à peine, osa dire tout à coup, pour gagner sa gageure, « À propos, comtesse, on prétend que vous avez les plus jolies et belles jambes de Paris. Faites-nous-les donc voir, je vous prie. » Et la comtesse, baissant déjà la main pour saisir le bas de sa jupe, eût montré ses jambes, tout ce qu'on aurait voulu admirer, si M. de Caldelys, rouge jusqu'aux oreilles, ne se fût hâté de mettre le pied sur la robe de sa femme. Elle parut très surprise, regarda son mari, et Madame de Soïnoff et les autres, les yeux grands ouverts, avec un air de dire « Qu'y a-t-il ? Est-ce que je ne peux pas montrer mes jambes, puisqu'on me demande d'aller voir ?» Car dans son berceau de gaze et d'Alençon, 25 ans auparavant, les fées des heureuses naissances avaient mis toute la beauté avec toutes les grâces et plus d'une vertu aussi, mais elles avaient complètement omis d'ajouter au plus précieux charme cet art sournois de les cacher qu'on appelle la pudeur et qui du reste a toujours semblé parfaitement inutile aux déesses et aux fleurs. Aucune pudeur, aucune. L'audace ingénue des petites filles qui lèvent leurs chemises pour montrer leur ventre aux passants. Elle l'a gardée, presque entière, à peine modérée par l'habitude des nombreuses étoffes et par les honnêtes exemples. Elle s'habille, oui, pour faire comme tout le monde, mais elle ne voit pas la nécessité de s'habiller. Lorsque, d'enfant qu'elle était, elle fut sur le point de devenir jeune personne, on eut toutes les peines du monde à obtenir d'elle qu'elle n'allât plus jouer derrière le mur du parc, aussi peu vêtue qu'eux-mêmes, avec les garçonnets du village qui se mettent tout nus pour faire des cabrioles. Et sa première jupe longue lui causa un chagrin étonné. Il fallut lui défendre sévèrement de descendre en chemise les jours d'été au déjeuner de famille. Même en robe montante, il y avait toujours un peu de peau qu'on voyait par des déchirures ou des dégrafements, aux manches, au corsage, n'importe où. D'ailleurs, aucune intention coupable, une candeur parfaite. C'était chez cet enfant, pareil à une fleur en bouton, quelque chose comme un besoin d'éclore, impérieux et naïf. Après avoir lu le roman de Bernardin de Saint-Pierre, elle pensa que si Virginie avait refusé de se laisser déshabiller, c'était parce que ce jour-là, sans doute, il faisait beaucoup de vent sur le rivage. Une fois, comme elle traversait le corridor pour aller à la salle de bain, « Apportez-moi le linge très chaud dans une demi-heure. » Instruite de l'ordre donné, la mère de Blanche accourut, furieuse, et gronda de la bonne manière la pauvre petite qui tremblait dans sa baignoire, où aucune poussière de son n'embrumait la transparence de l'eau. « C'était du joli, dire à un homme de venir dans une chambre où l'on est nu, mais elle perdait la tête apparemment. Mais qu'allaient penser d'elle les gens de la maison? Elle devrait mourir de honte, mais on en avait assez de ses folies et de ses imprudences. On la mettrait dans un cloître qui serait comme une prison et on l'y laisserait si elle ne changeait pas de conduite. » 20 autres paroles, cruelles, emportées, de sorte que Blanche, elle adorait sa mère, pleurait toutes les larmes de son corps, demandait pardon, jurait d'être très sage. Elle fut pardonnée. Mais, quelques instants après, comme dans l'émotion de l'aventure, personne n'avait songé à apporter le linge, elle alla le chercher elle-même, sans le moindre vêtement, à l'office. Depuis, par la règle du couvent où les visages mêmes se dérobent, et par le mariage, où l'on apprend l'économie des trésors qui appartiennent presque tous à un seul, elle s'est résignée en apparence à une certaine modestie. Oui, des robes et des corsets, et des jupes et des pantalons aussi, puisqu'il le faut. Mais sa haine instinctive du voile trouve, sans les chercher, toutes les occasions possibles de se satisfaire. L'impudence des décolletages qu'elle exige étonne les couturiers les plus déshabilleurs. Les soirs, à l'heure de partir pour le bal, lorsque Louis VII fait observer timidement que les manches de madame ne tiennent à rien, descendons jusqu'au coude de la seconde valse, et la des « Eh bien après !» qui déconcerte la femme de chambre. Jamais elle n'a poussé le verrou de son cabinet de toilette. L'idée de fermer les rideaux des fenêtres, quand tombe une à une, comme un effeuillement de blancheur, les dentelles, les mousselines et les plus intimes batistes, ne lui est jamais venue. Lorsque le coiffeur entre dans la chambre où la comtesse de Caldelys dort à demi sur le sofa, toute blanche et toute rose, dans quelque diaphane camisole, « Attendez !» dit-elle. Mais ce qu'il doit attendre, ce n'est pas qu'elle ait jeté un peignoir sur ses épaules, c'est qu'elle ait ôté la camisole. Et cela lui plaît de sentir tous ses cheveux s'écouler sans lien sur ses épaules et sur sa gorge, dont le miroir double la nudité. Pourquoi ? Pareil aux immortels, dont l'impudeur auguste est un des attributs de leur divinité, pourquoi a-t-elle ce rêve d'éblouir les yeux par le spectacle de la beauté parfaite ? Est-elle en proie à la chimère d'être, dans la splendeur de sa forme, l'idole vivante d'un peuple agenouillé ? Point du tout. Une mondaine comme les autres. Aucun songe très hautain de la rente. Même elle lit peu les poètes, ne se laisse pas entraîner aux rêveries. Un esprit simple, malgré les petites complexités communes à toutes les femmes. Ni trop peu de pensées. Elle n'a, pour excuser l'amour de l'air nu sur sa chair, ni l'orgueil sacré des déesses, ni l'inconscience des lys. Elle éprouve, voilà tout, un besoin d'être hors des étoffes. Les vêtements lui causent une gêne. Elle s'explique que l'on en mette lorsqu'il fait très froid et que le feu s'éteint. Mais dans d'autres cas, à quoi bon ? Sans y prendre garde, elle fait souvent l'effort de se serrer, de s'amincir, pour que sa robe plus lâche puisse glisser. Habillée, elle est comme un animal à qui l'on aurait jeté sur sa peau une autre peau. Et quelquefois, elle se secoue pour en être débarrassée. Et à la gêne matérielle s'ajoute une gêne morale. Il y a, dans son instinct d'impudeur, un désir de franchise. Elle ne conçoit pas qu'on se vête comme de braves gens ne comprennent pas qu'on mente. Mais ne croyez pas un seul instant qu'une aussi radicale absence d'hypocrisie physique implique des abandons plus complets de soi-même. La comtesse Blanche de Caldelys est la plus fidèle des épouses. Sa vertu est de celle que l'on cite en exemple. Bien qu'on l'ait aimée si souvent et poursuivie, les uns avec les emportements des passions sincères, les autres avec la stratégie plus dangereuse des désirs maîtres d'eux, elle est demeurée irréprochable. Et ce qu'elle n'hésiterait pas à montrer à tous, c'est à un seul être qu'elle le donne. Plus que tous les autres, M. le Père Manchère l'adora. Jeune, beau, avec le million qu'il convient d'avoir lorsqu'on n'est ni un grand poète ni un grand artiste, peu de femmes l'eussent dédaigné. Il ne prenait pas garde aux regards qui disent « Essayez, l'on veut bien », ni aux sourires qui sont déjà des consentements, car il ne voyait qu'elle seule, Blanche. 3 années durant, il la suivit, de près ou de loin, toujours. Elle avait cette tendresse autour d'elle, comme un enveloppement de respect et de prière. Elle ne demandait plus d'où venait le bouquet qu'elle trouvait tous les matins dans sa chambre, et que tous les matins elle jetait, hélas, par la fenêtre. À l'église, au bal, à la porte des maisons ouvrières où elle va porter ses aumônes, il était là, partout. Une telle constance eût attendri enfin le plus barbare cœur. Mais elle feignait de ne pas même remarquer ce persistant amour. Elle n'avait jamais voulu qu'on lui présentât M. de Pervenchère. Lui avait-il parlé, une ou deux fois, dans les hasards d'un cotillon ? telle était la vertu sévère de Blanche de Caldelys. Une fois pourtant, il réussit à passer quelques jours auprès d'elle, s'étant fait inviter dans un château où le comte et la comtesse étaient en villégiature. Tous les autres, dès le matin, partaient pour la chasse. Lui seul, amoureux, et elle, paresseuse, restait au château. Se déclarer, il le fallait enfin. Un jour, après avoir hésité, tout tremblant, pendant une heure, il entra dans la chambre où Madame de Caldelys, un livre tombé des mains, était étendu sur une chaise longue. Il s'arrêta. Elle était si peu vêtue, et ce qui l'étonna, c'est que, surprise ainsi, elle ne lui montrait pas la porte d'un geste d'épouvante ou de colère. Non, elle ne bougeait point. Elle le salua, une inclinaison de tête, avec une indifférence polie. L'air de recevoir quelqu'un qu'on voit sans plaisir comme sans peine. Il fit quelques pas. Il dévorait des yeux, délicieusement blanches et rosées, un peu comme de la neige qui serait des fruits, la belle gorge ferme, hors de la chemise ouverte, et les bras nus, abandonnés. Quoi, vraiment, elle ne le renvoyait point? Quoi, elle ne songeait même pas à ramener sur sa poitrine le voile de dentelle? Ébloui du divin spectacle, extasié du bonheur probable, il s'agenouilla, et marchant sur les genoux avec une lenteur qui craint de faire du bruit, il se rapprocha encore de la chaise longue. Ses mains, qui s'avançaient frissonnantes, touchèrent, non la peau, il n'eût pas osé, mais les étoffes, et peu à peu, du bout des doigts, avec les temps d'arrêt d'un voleur qui ouvre un coffre-fort, tandis que la comtesse, ne s'apercevant de rien, lui disait des choses vaines, « Il fait guère beau aujourd'hui, vous n'êtes pas allé à la chasse, vous avez eu peur de la pluie. » Il la dépouilla du corsage défait, du corset, des jupons et des bas de soie noire, tant qu'enfin elle fut pareille à une amadriade couchée sans voile après le bain. Elle l'avait laissé faire, pas étonnée, tranquille, causait, souriait, avait de l'esprit. Enfin, sûr d'être aimé, ivre de joie, il eut un cri de triomphe. Et lui prenant les mains, il les couvrit de baisers furieux. Mais alors, la comtesse Blanche de Caldelys, blême de colère, sursauta et debout, toute nue d'un geste auquel n'y a rien à répliquer, elle chassa l'insolent parce qu'il lui avait baisé la main.